Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte l'enquête sur l'assassinat d'un surveillant de prison, Luc Heran, en septembre 2000, à Cabanes, dans les Bouches-du-Rhône. Une enquête qui a débuté sous le regard de la politique. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, était aux obsèques de Luc Heran. Et qui s'est terminée, ouf, très loin de la politique. Très loin, vous verrez. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec maître Elisabeth Alric, du barreau de Nîmes, partie civile dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 8 septembre 2000, en fin de journée, Luc Heran, qui est surveillant de prison à la maison d'arrêt d'Avignon, quitte la prison pour rentrer chez lui à moto. Il habite à Cabanes, à 25 km. Il en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Au même moment, sa compagne Catherine est en train de préparer le repas. À 21h10, la nuit tombe, elle va fermer ses volets. Et là, elle entend la moto de Luc qui arrive. Le temps de la rentrer dans le garage, il sera là. Et soudain, deux coups de feu, suivis d'un hurlement. Ça vient du garage. Elle se précipite et elle trouve Luc, son Luc, étendu sur le sol du garage, sur le dos. Du sang s'écoule de son corps. Alors, elle sort dans la rue, elle crie « À l'aide! À l'aide !» Ce sont des voisins qui appellent les secours. Les pompiers et les gendarmes sont là un quart d'heure après. Un pompier se penche sur le corps. « Il est mort, madame. » Luc Heran avait 37 ans. Les gendarmes procèdent aux premières constatations dans le garage. Bon, a priori, il a reçu une balle à bout portant dans l'abdomen. Et puis l'autre à bout portant, je crois bien aussi, dans le bras. Hein. La moto est sur la béquille. Le casque a roulé par terre. Il a donc été surpris au moment où il venait de se garer et d'enlever son casque. Et tout de suite, on a une idée du calibre qui a été utilisé, car près du cadavre, il y a deux étuis, deux douilles. C'est du 7,65, hein, ça ? C'est une exécution. Un guet-apens suivi d'une exécution. Alors qui et pourquoi ? À l'entrée du garage, les gendarmes trouvent des indices. Des indices qui les mettent tout de suite sur une piste. Des sachets de poudre blanche. Si c'est de la drogue, et à vue d'œil comme ça c'est de la cocaïne ou éventuellement de l'héroïne ou du crack, on aura probablement l'explication de ce qui vient de se passer. Un règlement de compte chez les trafiquants de dope. Bon, tu me ramasses tout ça, hein ? Et t'envoies tout au laboratoire. Sur le trottoir, à quelques mètres du pavillon, les gendarmes trouvent une casquette. Elle n'a peut-être rien à voir avec cette histoire, mais elle file au labo, elle aussi. Ça arrive que des surveillants de prison se livrent au trafic de drogue. Une partie de la drogue qui entre en prison aujourd'hui, et il en rentre des kilos et des kilos, entre par les matons. Pas toute la drogue hein, consommée par les détenus, la principale source d'approvisionnement, c'est le parloir. Mais ça arrive. Et si Luc Heran était un trafiquant, en principe, on doit trouver chez lui, par exemple, une balance, indispensable pour peser la drogue au gramme près, ou des liasses de billets, ou des petits carnets de comptabilité. Les gendarmes retournent la maison, ils ne trouvent rien, rien. Et les proches disent que ça n'était pas du tout son genre. Luc, fais rentrer dans la dope en prison ? J'y crois pas du tout, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Là-dessus, tombent les résultats du labo qui a analysé la poudre.
Alors, on a un mélange de paracétamol, pilé, de farine et de fortifiant.
Ça n'est pas de la drogue. Ça ressemble à une mise en scène. dans le but de mettre les gendarmes sur une fausse piste. Alors maintenant qu'on a écarté la fausse piste, qu'est-ce qui reste ? Un voisin a vu le tueur. J'ai vu un type à moto, avec un casque de couleur sur moi. Ok, sauf qu'un autre voisin parle d'un casque blanc. Et encore un autre décrit un homme avec une casquette sur la tête. En revanche, tous sont d'accord sur un point. Le tueur est arrivé à moto et reparti à moto. C'était une grosse cylindrée, mais pas un modèle récent. Hein. Genre un vieux cube, vous voyez. Et d'ailleurs, quand il est reparti, il a eu du mal à démarrer la bécane. Hein. Et un voisin a vu la plaque d'immatriculation. Il n'a pas relevé tout le numéro, mais la moto était immatriculée 13. Les Bouches du Rhône. Voilà, c'est assez maigrelé comme information, mais c'est mieux que rien. Et puis, les gendarmes interrogent Catherine, la compagne donc de Luqueran. Et elle a sa petite idée. Ah, pour moi, c'est une vengeance, hein. C'est une vengeance d'un détenu. Ou d'un ancien détenu. Et les collègues de Luc disent que ça n'est pas impossible. Luc, il pouvait se montrer très strict avec les détenus. Ça, c'est certain. De toute façon, c'est un risque que nous-mêmes, on connaît tous. Hein. On vit avec ça. Et d'ailleurs, dans la foulée, les surveillants de la prison Sainte-Anne d'Avignon organisent une journée de deuil. Pas une grève, hein, ils n'en ont pas le droit, mais un genre de grève, une journée de service minimum, avec une grande banderole accrochée au-dessus de la grande porte de la prison. Pourquoi Luc ? Et du coup, au ministère de la Justice, on met une légère pression sur les gendarmes. Faudrait voir à nous résoudre rapidement cette affaire. À propos, qu'est-ce qu'il faisait à la prison Sainte-Anne, Luqueran ? Il était affecté à l'infirmerie, aux côtés des soignants. Oui, son rôle était de veiller à ce que les détenus prennent correctement leur traitement. Vous devez savoir que beaucoup de prisonniers, notamment les toxicomanes, tentent par tous les moyens de ne pas prendre le traitement de substitution qu'on leur donne, genre méthadone, vous voyez. Donc ils essayent de le stocker pour ensuite le revendre en détention, voilà quoi. On en revient à la drogue. Luqueran empêchait en quelque sorte les détenus de faire leur business. Il était gênant. Et dans son rôle d'empêcheur de trafiquer en rond, il était très strict, en plus. Et ses collègues confirment que ça passait mal avec certains détenus. Ah ben, il y a une fois, il y en a un, il en est venu aux mains. Hein. Il gueulait « je te ferai la peau, je te ferai la peau, je te ferai la peau ». Dingue, quoi. Et ce détenu-là, il est toujours chez vous ou il est sorti ? Ah non, il est là, hein. Il n'a pas quitté les murs, hein. Donc il n'a pas pu agir lui-même. Mais il a très bien pu commanditer le crime, depuis la prison. Et donc tout son entourage est placé sur écoute. Mais ça ne donne rien. Les obsèques de Luqueran ont lieu le 18 septembre, soit 10 jours après le meurtre. Et la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, a fait le déplacement. C'est dire si le ministère de la Justice a peur que cette affaire empoisonne durablement la maison. Et la ministre, après les obsèques, prend la parole. Luqueran a été lâchement assassiné. Et je prendrai toutes les mesures possibles pour que les agents puissent remplir leur mission de service public pénitentiaire en sécurité au service de la justice. Je vous remercie. S'il n'y avait pas un mort dans cette affaire, j'oserais vous dire que la suite est à mourir de rire. Car en vérité, à ce moment-là, les gendarmes ne croient plus trop que Luqueran ait été tué par un autre détenu. Ils sont sur une autre piste. Allez, je vous laisse mijoter un peu. depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, en dehors de l'argent, qu'est-ce qui fait que les gens se tuent les uns les autres? Le cul! La passion amoureuse, si vous préférez. Alors, où en était Luc, disons sur le plan sentimental? Il vivait en couple avec Catherine depuis 4 ans, mais il n'était pas marié. Ce qui ne les empêchait pas, d'après Catherine, d'avoir des projets.
On voulait avoir des enfants.
Et par ailleurs, ils avaient décidé d'aller vivre à La Réunion. Catherine avait obtenu sa mutation et Luc l'avait demandé. Donc apparemment, un joli petit couple. Les gendarmes découvrent qu'en vérité, Luc était un coureur de jupons. On leur raconte une histoire. Un jour, il a essayé de draguer la femme d'un collègue. Et elle avait accepté un dîner. Juste un dîner, hein. Et lui, pendant le dîner, il a chauffé, quoi. Elle a pas voulu aller plus loin. Et en rentrant, elle l'a dit à son mari. Et le mari... Eh bien, il est allé voir Luc. Je vous parle d'un truc qui s'est passé dans la prison, hein. Devant nous. Ils se sont battus dans la prison. Il a fallu les séparer. Et le collègue lui a dit, Luc, je vais te tuer. Il lui a dit ça, je vais te tuer. Bigrement intéressant, ça. Et les gendarmes convoquent immédiatement et le collègue et son épouse. Ils dédramatisent. Ils sont placés sur écoute pendant quelque temps. Et ça ne donne rien. Faut-il pour autant abandonner la piste amoureuse? Parce que les gendarmes ont fouillé le casier de Luc Rang à la prison. Et ils sont tombés sur des lettres, dont 3 lettres d'une dame, au contenu assez explicite, assez chaud même. Luc Rang avait donc une maîtresse, au moins une. Une certaine Vic, qui habite Arles, si on en croit l'adresse au dos des lettres. Les gendarmes commencent par l'appeler.
Luc, j'ai pas de nouvelles depuis... au moins 10 jours.
Vous n'êtes pas au courant, madame? Alors je suis désolé de vous l'annoncer moi-même. Luc Rang est mort. Il a été tué. Et nous sommes en charge de l'enquête.
Elle n'était pas au courant. Et elle confirme qu'elle entretenait avec lui une relation depuis quelques mois.
Dites, madame, vous pourriez venir à la brigade d'Avignon? Hein? On voudrait absolument vous entendre.
Cette Vic n'est pas célibataire, elle non plus. Elle a un compagnon, Philippe, et 2 enfants en bas âge. Et voilà... comment elle a rencontré Luc.
Mais ça remonte à septembre l'année dernière. Je me suis inscrite dans un club de karaté à Arles. Et dans mon cours, mais donc il y avait Luc. Et vite j'ai compris qu'il me draguait, quoi.
Et vous avez répondu tout de suite à ses avances?
Ah non, non. On a fait connaissance pendant plusieurs mois. Il me parlait, il était gentil, hein. Et comme de mon côté ça... mais ça allait pas trop dans mon couple. Mais c'est seulement au mois d'avril que on s'est embrassé pour la première fois, quoi.
Elle dit aussi que ça n'était pas qu'une histoire de sexe, qu'il y avait du sentiment entre eux.
Moi, je vous dis la vérité, hein. Luc, pour moi, mais c'était l'homme de ma vie.
Votre compagnon, Philippe, il s'était rendu compte de la situation.
Oui. Oui, un soir, je suis rentré tard. Il avait voulu me faire la surprise de rentrer plus tôt du travail. Et donc, il m'a fait une scène et... et après, il dormait plus, hein. Il mangeait plus.
Ah, une rivalité. Un mari jaloux.
Madame, je vais vous poser une question qui n'est pas facile, mais... est-ce que vous pensez que votre compagnon... Philippe est capable d'avoir tué Luc Rang, par jalousie? Ah non. Ah non, 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 il aurait été incapable de faire ça. Hein. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il avait une moto. C'est quel type de moto? C'est une moto ancienne? Un truc de collecte? D'ailleurs, elle marche pas trop bien, il a tout le temps du mal à démarrer. Vous vous souvenez? Le soir du meurtre, un voisin a vu le tueur s'enfuir à moto. Il a dit qu'il avait eu du mal à démarrer. Votre compagnon, Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire où il était le soir du 8 septembre? Mais c'était vendredi, ça. Mais on a dîné ensemble avec les enfants vers 8h. Ensuite, je me souviens, mon frère Charles l'a appelé. Et Philippe, il est allé passer la soirée avec lui. Et moi, j'ai regardé qui veut gagner des millions à la télé. Donc ça, ça commence à 9h au moins 10, donc il a dû partir vers 9h au moins 10. Ah, dans ce cas, c'était pas lui, parce que Arles-Cabanes, ça fait 42 kilomètres de départemental. Matériellement, il ne peut pas partir de chez lui à 9h moins 10 et tuer Luc Grand à 9h15. Mais d'un autre côté, il y a cette moto qui démarre mal. Et il y a un mobile. Alors les gendarmes vont le voir, ce Philippe. Ils ne le mettent pas en garde à vue. Hein. Ils veulent juste lui poser des questions et voir sa moto. Alors la voilà, ma moto. Je l'utilise pas souvent. Elle n'est pas en super état, elle a toujours du mal à démarrer. Ça, ça colle. Mais le problème, c'est qu'elle est immatriculée dans le Vaucluse, cette moto, 84. Alors qu'un témoin affirme que la moto du tueur était immatriculée 13, Bouches-du-Rhône. Fausse piste, encore une. Les gendarmes sont sur le point de partir. Quand, dans la cuisine, un gendarme aperçoit un calendrier sur le mur. Un calendrier en carton. Sur lequel, à la date du 8 septembre, la date du meurtre, il y a une croix rouge. Dites, monsieur, que représente cette croix-là, sur votre calendrier? Ça? Mais c'est la date à laquelle Vic a ses règles. Je la coche pas, parce que je sais que c'est pas le bon moment pour coucher ensemble, quoi. Mouais. Les gendarmes n'en croient pas un mot. Monsieur, à partir de cet instant, nous vous plaçons en garde à vue. Et vous allez nous suivre pour être entendus dans nos locaux. Alors, voyons comment Philippe raconte la soirée du 8 septembre. Mais on a dîné avec Vic, vers 8h. Et après, il y a mon beau-frère qui m'a appelé. Et donc, je suis allé chez lui. À quelle heure est-ce que vous arrivez chez votre beau-frère? Vers 9h, et vous y restez jusqu'à Cannes? 9h30. Vous saviez que votre compagne avait, disons, une relation? Oui, oui, je le savais. Et est-ce que vous avez envisagé de vous venger? Cher, non. Moi, je ne l'ai pas tué, ce type. J'ai rien à voir là-dedans. On ne tue pas pour une femme. Si elle voulait me quitter, Vic, je l'aurais laissé partir. Pour l'instant, tout colle. Ça n'est peut-être pas lui. D'autant que le beau-frère, Charles, le frère de Vic, confirme mot pour mot que le 8, il était chez lui entre 9h et 9h30. C'est une fausse piste, une de plus. Mais les gendarmes sont têtus. Le point de repère de Vic pour situer l'heure du départ de Philippe, c'est 9h moins 10. C'est le début de l'émission qui veut gagner des millions sur TF1. Alors les gendarmes vont pianoter sur Internet. Alors, à quelle heure ça démarre vraiment, cette fichue émission? Ah! Ça ne passait pas à la télé, ce soir-là, qui veut gagner des millions. La seule chose que Vic a pu voir ce vendredi soir, c'est la bande-annonce de l'émission et renseignements pris auprès de TF1. Elle a été diffusée à 19h45. Et puis, c'est à 20h03 que Philippe a reçu le coup de fil
de son beau-frère. S'il part dans la foulée, alors il a le temps d'aller à Cabane. Et il a le temps de tuer Luc Heran. En fouillant dans les contacts de Philippe, le compagnon de Vic, les gendarmes s'aperçoivent qu'il y a un numéro qui revient tout le temps. Celui d'un dénommé Karim Mgaïri. Il s'appelle souvent, très souvent. Et puis, plus du tout depuis le meurtre de Luc Heran. Alors il pose la question à Vic. C'est qui ce Karim? Karim? Moi je dirais que c'est comme le frère de Philippe. Ils se connaissent depuis tout petit. Ils ont grandi dans le même quartier. Si Philippe voulait se débarrasser de son rival, est-ce que son frère a pu l'aider? On vérifie son emploi du temps le soir du crime. Il dit qu'il était chez une copine. Et la copine confirme. Il a donc un alibi. Là-dessus, les experts viennent apporter un gros coup de pouce à cette enquête. Vous vous souvenez qu'après le crime, on a retrouvé une casquette dans la rue, près de chez Luc et Catherine. Et qu'un témoin a dit qu'il avait vu le tueur partir avec une casquette. Et bien sur cette casquette, on a isolé un ADN masculin. Et cet ADN, on vient de le comparer à celui de Philippe, le compagnon de Vic. Et le résultat est sans appel. L'ADN de la casquette, c'est bien lui, hein? Et lui maintenant, je peux vous donner son nom. Il s'appelle Philippe Perrault. Et les gendarmes le placent à nouveau en garde à vue. Et comme son temps de garde à vue a déjà été grignoté par son précédent interrogatoire, les gendarmes vont droit au but. Monsieur, nous avons du nouveau. On a retrouvé votre ADN sur la scène de crime. Et là, Philippe Perrault se déballonne comme une vieille baudruche. C'est moi. Je reconnais les faits. Quand Charles, mon beau-frère, m'a appelé, j'ai pris ma moto pour aller chez lui. Et puis, chemin, j'ai pensé à mon couple. Et j'ai décidé d'aller voir ce Luc pour en parler en direct avec lui, quoi. Vous aviez une adresse? Oui, je l'avais vue sur une carte de visite que Vic avait sur elle. Et l'arme? Comment vous l'êtes-vous procurée? Mais c'est par hasard sur le chemin, un gitan qui m'a proposé de la vendre.
Ça, entre nous, ça ne tient pas du tout. Mais bon, il est en train d'avouer, ne lui couperons pas la chic.
Quand je suis arrivé sur place, j'ai garé ma moto dans une rue à côté de chez lui. Et puis j'ai attendu son retour. Je l'ai vu arriver, rentrer dans son garage. Et là, je suis allé le voir et c'est lui qui m'a agressé en premier. Il m'a dit « ta salope de femme, et elle baisse trop bien, je la verrai tant que je veux, c'est pas toi qui m'en empêchera ». Et là, il m'a jeté son casque dessus, et j'ai pris peur, et j'ai sorti mon arme, et j'ai tiré.
Ouais. Ça serait donc de la légitime défense, ou presque, quoi. Un peu facile.
En parallèle, les gendarmes placent aussi en garde à vue Charles, le beau-frère, Charles Luong. Il ment depuis le début, puisqu'il l'a couvert et qu'il lui a fourni un alibi. Et Karim Mgaïri, le copain d'enfance. Le bof craque rapidement.
J'ai pas dit la vérité. Philippe, il était pas chez moi le soir du 8. C'est lui qui m'a demandé de lui fournir un alibi. Et j'ai accepté, quoi.
Et Karim Mgaïri, lui aussi, passe à table.
Philippe, c'était mon meilleur ami. Il était malheureux. Il m'a demandé de lui trouver une arme. Moi, je pensais qu'il voulait juste faire peur au gars, quoi. Je lui ai trouvé une arme.
Votre ami Philippe, vous a-t-il dit qu'il avait l'intention de tuer son rival? Il me l'a dit. Mais moi, je ne l'ai pas cru. Lâché par ses deux amis, Philippe Perrault finit par raconter ce qui s'est vraiment passé. Ça remonte au mois d'août. Pour reconquérir Vic, il lui offre un voyage aux États-Unis. Et pendant le voyage, elle lui annonce qu'elle ne l'aime plus. Alors de retour à Arles, il demande à son copain Karim, son frère, de la filocher, de jouer les détectives. Mais c'est pas un pro, Karim. Elle s'aperçoit que quelqu'un la suit, et Luc aussi d'ailleurs. Remarque qu'on le piste. Bref, à un moment donné, grâce à Karim, Philippe sait tout de son rival. Et notamment ses horaires. Au passage, tout ça, ça signe la préméditation. Ça n'est plus un simple meurtre. C'est un assassinat. D'autant qu'on découvre que, quand il a décidé de passer à l'action, Philippe a maquillé sa moto. Il a collé de gros scotch sur le réservoir pour modifier l'apparence. Et il a aussi changé le numéro du département sur la plaque. Il a mis un 13 à la place du 84. Et il a aussi préparé les petits sachets de poudre pour tenter de détourner l'enquête vers un trafic de drogue. La préméditation ne fait aucun doute. Et ensuite, il a attendu que Karim lui fournisse l'arme. Il la lui donne le jour même. Philippe va dans un coin de campagne pour l'essayer. Et après le meurtre, Philippe va chez son beau-frère, Charles. Il lui laisse l'arme et il rentre chez lui, retrouver Vic et ses enfants. Et l'arme, il va la récupérer quelques jours plus tard et l'enterrer dans le jardin de sa grand-mère, où on la retrouve. Eh bien voilà, on sait tout. Il n'y a plus qu'à les juger tous les trois. Philippe Perrault pour assassinat, et son beau-frère Charles Luong et le copain Karim M. Gairi pour complicité d'assassinat. En octobre 2003, les trois hommes se retrouvent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Catherine, la compagne de Luc Heran, est là, évidemment. Et ça va pas être facile pour elle. On ne va lui épargner aucun détail de la vie extra-conjugale de son chéri assassiné. Alors, quelle est la ligne de défense de Philippe Perrault? Eh bien, la seule qu'il puisse tenter, le crime passionnel. Il a tué par passion amoureuse. Il a raison de tenter cette carte, parce que les jurés de cour d'assises, en général, sont plus cléments avec les crimes d'amour. Son avocat est à la manœuvre. J'ai ici sous les yeux le journal intime de Philippe Perrault. Fin août, il écrit ceci. Je lis. Soit je me tue, soit je nous tue tous, soit, trois points de suspension, il ne finit pas sa phrase. Vous percevez le désarroi de cet homme à ce moment-là. C'est cet homme-là qui tue Luc Heran quelques jours plus tard et qui est là dans le box. Cet homme perdu, cet homme qui ne savait pas qui il était. C'est bien joué, mais le dossier ne raconte pas ça. Il raconte un homme qui a longuement prémédité, organisé son geste. Ça n'est pas un crime passionnel. La passion, c'est à chaud, c'est sur le coup. Philippe Perrault est condamné pour assassinat à 20 ans de réclusion criminelle. Son copain Karim, qui a fourni l'arme, prend 10 ans pour complicité, c'est cher payé. En revanche, Charles Luong, le frère de Vic, s'en sort bien. Lui qui a caché l'arme et fourni un alibi à Perrault, s'en sort avec 4 mois avec sursis. En appel devant la cour d'assises de Draguignan, la peine de Karim est ramenée à 8 ans. Et confirmation de la peine de 20 ans pour Philippe Perrault. Une dernière remarque dans cette histoire.
la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, s'est donc déplacée de Paris pour assister aux obsèques d'un surveillant de prison qui a été assassiné pour une histoire de fesses. Voilà donc pour cette histoire que nous allons maintenant débriefer avec maître Elisabeth Alric du barreau de Nîmes. Vous étiez, maître Alric, dans cette affaire, l'avocate de Catherine, la compagne de Luc Errant et de ses parents. Avant que vous nous parliez de Catherine d'ailleurs, peut-être une remarque sur cette petite remarque faite à la fin de cette histoire, mais c'est vrai que cet empressement des politiques à s'emparer des affaires, au cas où, dans ce dossier-là, paraît absolument ridicule a posteriori.
Je suis entièrement d'accord avec vous, les hommes politiques qui se déplacent avec leurs gestes, leurs escortes, etc. Tout ça pourquoi ? Pour se faire revoir alors qu'elle avait rien à faire là.
Strictement rien au regard de la fin de l'histoire. Alors votre situation à vous, votre situation, maître Alric, est très particulière puisque vous êtes donc l'avocate de Catherine et aussi des parents de Luc Errant.
Et du frère également.
Et du frère, mais donc l'avocate de Catherine. Elle est partie civile dans une affaire dont l'objet est une maîtresse qu'avait son compagnon. C'est une situation, je suppose, pour elle, extrêmement difficile à vivre. Elle vient s'asseoir au banc des parties civiles.
Mais d'autant plus difficile à vivre qu'ils vivaient ensemble depuis 4 ans, qu'elle était très amoureuse de lui. Et je crains qu'elle ne soit encore, puisque je n'ai pas vu maintenant depuis quelques années, mais je sais qu'au bout de 10 ans, elle n'avait toujours pas refait sa vie, alors que c'était une jeune femme. Donc elle était très amoureuse de lui. Et pour elle, au départ, ça venait, comme on l'a pensé, de la prison, de vengeance. Elle n'a jamais pensé une seconde que Luc avait une maîtresse. Et elle va découvrir.
Elle ne part pas du tout sur cette piste. Elle est.
Pas du tout.
Finalement, elle est très guigou dans cette affaire.
Elle ne part pas du tout sur cette piste. Elle n'a jamais pensé que Luc a trompé. C'était une femme dévouée, fidèle. Et elle croyait que Luc, c'était la même chose, quoi. Ils avaient des tas de projets ensemble, voilà. Donc. Elle est tombée des nues quand elle a appris qu'il avait une maîtresse depuis plusieurs mois.
Elle apprend tout pendant l'enquête ou elle apprend encore des choses ? Elle a encore des choses à apprendre au procès ?
Alors, elle apprend tout pendant l'enquête, bien sûr. Par contre, au procès, ça va être le premier contact avec Vicky. Ça n'a pas été quelque chose de... Je ne sais pas comment dire. Elles ne se sont pas sautées dans les bras. Elles étaient même à distance en permanence. C'était deux femmes qui s'affrontaient un petit peu encore au procès.
Vic n'était pas partie civile, rassurez-moi.
Non, quand même pas.
Non, quand même pas. Alors avant d'entrer plus avant dans cette histoire, puisqu'on a terminé par le verdict, je voudrais un commentaire sur le verdict. 20 ans pour un assassinat, c'est pas cher payé. Il encourait, Philippe Perrault, perpétuité. La réclusion criminelle à perpétuité. Mm-hmm. Comment ça s'explique ?
Alors, il a tenté de faire croire au crime passionnel. Moi, je n'y ai jamais cru. Parce que lui, il faut savoir que avant Vicky, il avait une maîtresse, Perrault. Ouais. Donc, quand Vicky prend après un amant, il va jouer les redresseurs de tort, je trouve qu'il était un petit peu mal placé. Ensuite, sa souffrance, sa douleur, ça ne donnait pas un permis de tuer, déjà. Et je crois que si tous les gens qui sont trompés se mettaient à tuer, ça ferait beaucoup de monde. On a tous eu un chagrin d'amour, on n'est pas tous devenus des assassins. Et cette version, je l'aimais, donc j'ai voulu... Non, c'était une blessure d'amour propre avant tout, c'était pas une blessure d'amour.
Les jurés ont considéré qu'il ne méritait pas plus de 20 ans. Ils ont compris en partie, un peu, ce geste. Ils lui ont accordé des circonstances atténuantes d'une certaine manière.
Oui, si ce n'est que 20 ans de réclusion criminelle, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, pour un assassinat, c'est rare.
Non, c'est pas parce qu'il est prévu au code pénal la réclusion criminelle à perpétuité. C'est rarement, d'ailleurs, on le voit rarement prononcé. Non, 20 ans, j'étais partie civile, mais c'était ce qui avait été requis, d'ailleurs. Et ce qui a été confirmé ensuite, en appel. C'était une peine juste, je crois.
Comment expliquez-vous, par ailleurs, la peine de 10 ans, puis de 8 ans, du copain Karim, qui a donc fourni l'arme. Là, pour le coup, ça paraît cher payé, mais en vérité, on le soupçonne d'avoir agi plus que ça dans le crime.
Alors moi, c'est mon intime conviction. Hein. Il y était. Il y était, pourquoi ? Parce qu'on va retrouver deux casques. Sur place. Deux casques, plus une casquette, pour un seul homme, ça fait 3 couvre-chefs, ça fait beaucoup. Et surtout, Catherine... Parce qu'elle est entendue dès le lendemain, elle est encore sous le coup, et elle dit, formellement, un premier homme est venu, a jeté, il était à pied celui-là, il a jeté les sachets, et c'est Papé Rose, Tom, et elle le reconnaît, lors du tapissage, elle le reconnaît Karim. Et elle, après, elle dit, un deuxième homme est passé en moto, a jeté d'autres sachets. Mais elle l'a reconnu, et de plus, ces deux casques, cette casquette, c'était pas normal, quoi.
C'est-à-dire que vous pensez qu'il y était, d'une certaine manière, les jurés aussi, parce que 10 ans pour avoir fourni une arme, ça tient pas debout.
10 ans, ben, on est quand même comme fourniture de moyens, c'est une complicité d'assassinat, hein. Et le complice, la peine encourue est la même que pour l'auteur principal. C'est-à-dire
logiquement, perpétuité. Oui.
Voilà.
Logiquement, oui.
Alors, je crois qu'il y a eu un doute sur sa participation, parce que je l'ai plaidé 2 fois, donc à Aix, sur le fait que pour moi, il y était.
Mais rien n'est établi, lui ne l'a jamais reconnu.
Ah, mais de toute façon, tous les trois, dès le départ, en garde à vue, ont tout nié, absolument tout. Ils se sont forgés des alibis, ils ont tout nié. Et puis après, quand Perrault a eu face à lui des preuves accablantes, il a fini par commencer à avouer. Et puis 8 mois après, devant le magistrat instructeur, il va dire « Ah mais non, mais il m'a agressé, il m'a dit ta salope de femme, le baise bien, vous l'avez révélé voilà, dans votre commentaire, et de toute façon je la garderai, enfin je sais pas quoi. » Vous imaginez, ce tome, d'abord Catherine Chevrière, était dans sa cuisine, fenêtre ouverte, le garage juste en dessous. Donc s'il y avait eu des paroles, elle les aurait entendues, elle n'a entendu que les coups de feu. Et en plus, c'est une, je crois, une question de bon sens, quand un homme à une arme braquée en face de lui, à 1 mètre, il était à 1 mètre, ben je crois qu'il ne ramène pas en disant ta salope ceci, au contraire, il a au profil bas, et ben écoute, je fais une bêtise, j'arrête tout, reprends ta femme, et c'est terminé. Et je pense que Luc, face à cette arme, alors que lui était sans défense, n'aurait jamais réagi comme ça.
C'est une question que je pose souvent aux avocats, mais moi, au fond, je ne les connais pas, tous ces gens. Alors que vous, si. Qui est Philippe Hérault? À quoi ressemble-t-il? Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il passe du constat que sa femme, sa compagne Vic, a un amant, à ce besoin de le tuer?
Mais je crois que, comme je vous le disais, il y a une grande blessure d'amour-propre, et tous les témoins qu'il a rencontrés après l'assassinat disent qu'il avait ni remords ni regrets, qu'il est devenu dur, arrogant et joyeux. Et il y a un détail qui, je crois, est important. Quand il rentre après avoir assassiné Luc, il va tenter d'avoir une relation sexuelle avec Vic. Moi, ça me paraît un peu surréaliste, quand on vient d'assassiner un homme, d'avoir envie de faire l'amour.
C'est donc une personnalité très égocentrée. C'est quoi? C'est une grande gueule?
Oui, qui a menti tout le long, en garde à vue, devant le juge d'instruction, il n'a cessé de mentir, et qui ensuite a voulu jouer la carte de l'amoureux transi qui avait été trahi alors que lui trahissait Vicky déjà bien avant. Et pour moi, ça passait pas du tout. Il n'y avait aucun accent de sincérité.
Est-ce qu'il exprime des remords?
Pas du tout. Procès? Aucun remords. Non. Mais c'est lui la victime, c'est moi le cocu, c'est moi la victime, c'est moi le malheureux. Non, non, il n'a aucun remords. Hein.
Mais expliquez-moi, c'est quoi? C'est un méridional avec une grande gueule, un macho
Vous savez, moi je l'ai vu lors de la reconstitution, parce que je n'étais pas son avocat, je ne l'ai jamais vu en prison, peut-être lors d'une confrontation devant le magistrat instructeur, et au procès, c'est tout. Bon, je ne peux pas juger un homme en 24-48 heures, est-ce que c'était sûrement quelqu'un de très fier, Vicky, c'était sa chose. D'ailleurs, quand il s'exprime, il dit... J'ai été marron, j'ai pris des mots comme ça, on me l'a pris, c'est vraiment des mots, oui, de macho. Moi, j'étais marron, donc j'ai pas accepté.
Et Vicky, alors, elle est là, au procès.
Elle est là, au procès.
Comment elle se comporte?
Elle est presque transparente, j'allais dire. Transparente, elle essaie bien sûr d'éviter Catherine, et on la voit sous son banc, mais elle a pas de réaction, quoi.
Et quand elle est interrogée, elle a quel regard sur le fait quand même que son conjoint ait tué son amant par jalousie?
Je crois qu'au départ, elle n'a pas cru que c'était lui.
Oui.
Et qu'ensuite, bon, ils se sont séparés très rapidement, bien sûr, quand elle a su la vérité. Hein. Donc elle a dû avoir de très bons sentiments à son égard à ce moment-là.
Ça vous intéresse et ça sera
Ma dernière question, maître Alric, mais ce genre d'histoire, ces histoires d'amour passionnel, c'est en tant qu'avocat, c'est intéressant, plus intéressant que le crime malin, que le crime de rancœur, le crime organisé.
Oui, bon, je suis avocat pénaliste. Moi, les assises, ça a été ma passion pendant toute ma carrière d'avocat. Mais c'est vrai, quand se mêlent là, en plus des histoires d'amour, c'est plus vivant, plus fort qu'un braquage, par exemple.
C'est à ça que je pensais. Oui, pour un avocat, c'est une matière intéressante.
Oui, pour moi, oui, en tout cas.
Et pour moi aussi. Merci, maître Alric. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir sur cette histoire. Vieille de 20 ans.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.